Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Des discussions constructives, c'est comme cela que Donald Trump a présenté hier dans le traditionnel discours sur l'état de l'Union les pourparlers de son représentant avec les talibans. Il semble sérieux avant ces talibans à propos des mêmes discussions et de l'annonce du retrait américain par Donald Trump. Des discussions encourageantes et une ébauche d'accord pour les uns, des progrès importants pour les autres. Malgré une situation sécuritaire dans le pays toujours très difficile, les conditions d'un cessez-le-feu ne sont donc pas encore réunies, mais il semble tout de même y avoir quelques avancées. La paix est-elle possible en Afghanistan? C'est la question du jour. Et pour en parler, deux invités sont avec nous en studio. Karim Pakzad, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, et spécialiste de la région de l'Afghanistan. Et Jean-Luc Racine, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS, chercheur senior au think tank Asia Centre. C'était donc il y a quelques jours au Qatar, les discussions les plus longues depuis longtemps entre talibans et américains au sujet de l'Afghanistan. Difficile évidemment de savoir ce qui s'est dit exactement. Est-ce qu'on peut analyser les différentes déclarations dont je viens de parler comme le signe d'un vrai progrès, Jean-Luc Racine?
Disons, on est passé de ce qu'on pouvait appeler des tentatives de dialogue, dont certaines remontent à vraiment des années, à ce qui semble être le début d'une négociation. Mais le vrai problème, c'est que on a là deux acteurs clés, les talibans et les américains, mais où est le gouvernement afghan? Et donc, évidemment, on est dans une situation très complexe où la multiplicité des acteurs, les Américains, mais aussi les Russes, puisque hier et aujourd'hui, il y a eu à Moscou une réunion...
Entre talibans et opposants afghans.
Entre talibans et opposants ou semi-opposants afghans sous la tutelle de Moscou. Donc, la légitimité des talibans, aujourd'hui, ne pose plus vraiment de problème. Je veux dire, on a pu les définir des terroristes. Mais enfin, Hamid Karzai, l'ancien président afghan, les avait appelés des frères qu'il s'agissait de mener vers la voie de la réconciliation. Mais la question majeure est double. Quand les talibans vont-ils parler au gouvernement afghan? Ils nous disent... après le retrait, ou au moins après un accord garanti sur le calendrier de retrait des forces américaines. Et l'autre question, c'est une paix peut-être possible, mais quelle paix? C'est-à-dire pour établir quel régime après un éventuel accord de paix.
Karim Pakzad, il y a une évolution significative quand même ces derniers jours. Il y a quelque chose de vraiment nouveau?
Ah oui. Oui, évidemment. Je pense qu'après la quatrième rang des négociations, ou au moins des discussions entre les talibans et les envoyés américains à Qatar, on a eu des éléments de convergence sur plusieurs points extrêmement importants entre les deux délégations. Évidemment, nous n'avons pas encore un texte sur lequel il faut se prononcer. Mais les informations que nous avons aussi bien du côté de Kaboul que surtout aujourd'hui, comme vous avez bien souligné, au cours de la conférence à Moscou, hier et aujourd'hui, parce que cette conférence a été très très couverte par les médias de la région, notamment les médias afghans, et au cours de laquelle aussi bien les dirigeants de talibans qui étaient présents, que les chefs politiques afghans se sont... ont donné des informations extrêmement importantes. Alors, qu'est-ce qu'on...
Les talibans parlent carrément de succès, hein.
Oui, évidemment. Mais qu'est-ce qu'on on apprend? On apprend que, sur un point, il n'y a aucun doute qu'il y a un accord entre les Américains et les talibans. C'est le retrait des troupes américaines. Le seul point qui reste sur cette question, c'est le calendrier des retraits. Si vous vous souvenez, il y a plusieurs semaines déjà, le mois dernier, Donald Trump lui-même a annoncé que les États-Unis retireraient dans quelques mois, c'est-à-dire au mois d'avril, à peu près 7 000
hommes sur 14 000, voilà, la moitié. Hommes,
hein. La moitié des soldats soviétiques. Or, cela a été acté à la quatrième conférence de Qatar. Les talibans, maintenant, exigent un calendrier précis Et il ne, comme M. Racine a souligné, il ne veulent pas accepter un cessez-le-feu tant que la 12e contingente américaine n'ont pas quitté l'Afghanistan. Mmh. Donc il y a un point assez essentiel sur lequel les talibans ont obtenu gain de cause, mais sur un autre point, les Américains ont obtenu un gain de cause. C'est-à-dire l'engagement des talibans qu'ils ne seraient pas du tout la place ni à Al-Qaïda ni à Daesh en Afghanistan. C'est-à-dire qu'Afghanistan ne sera pas vraiment une deuxième Syrie ou l'Irak.
Alors justement, ils promettent de ne pas servir de base arrière ou de sanctuaire à Al-Qaïda. C'est ce qui avait justifié l'intervention américaine en 2001. Ça fait quand même 18 ans de présence, 18 ans de guerre. Est-ce que cette promesse, Jean-Luc Racine, vous paraît crédible ?
Oui, elle est crédible. Alors, elle est à coup sûr crédible s'agissant de Daesh, puisqu'il y a déjà eu des combats entre les talibans et les représentants de Daesh sur le terrain afghan, qui sont pas forcément des gens qui reviennent de Syrie, hein, qui sont pour une part des talibans pakistanais qui ont passé la frontière, ou des ouzbeks d'une faction du mouvement islamique d'Ouzbékistan. Pour Al-Qaïda, je crois qu'on sait aujourd'hui, et entre autres, il s'est dit beaucoup de choses à Moscou, et comme Karim l'a rappelé, beaucoup de choses ont été dites publiquement, ce qui, y a là une différence notable avec ce qui se passe au Qatar. Hein. Au Qatar,
oui, c'est blackout. Hein.
Blackout. À Moscou, tout le monde s'épanche devant les radios. Il semble que les talibans aient compris que, quelles que soient les hypothèses sur l'avenir, leur intérêt majeur, c'est de dire, et probablement de mettre en œuvre s'ils en ont les moyens, on coupe les ponts avec Al-Qaïda.
Est-ce que Al-Qaïda constitue aujourd'hui en Afghanistan une menace réelle ? Est-ce que c'est la principale menace dans le mouvement djihadiste, Karim Pakzad ?
Non, Al-Qaïda depuis plusieurs années, déjà,
on a l'impression qu'ils sont quand même un peu affaiblis.
Et très, très affaiblis. Il ne reste que quelques individus ouzbeks, tchétchènes, ouïghurs, ou des arabes installés depuis plusieurs décennies carrément dans la
ceux
région.
Ceux qui étaient venus avec Oussama Ben Laden.
Voilà,
en fait,
hein. Voilà. Sinon, Al-Qaïda n'est plus active en Afghanistan. Daesh est active en Afghanistan. Mmh. Mais le problème, en fait, je pense que Taliban ont promis quelque chose ça ne leur coûte pas grand-chose. Al-Qaïda quasiment n'existe plus. Et Daesh, si jamais le processus de paix échoue, à ce moment-là, il y a une possibilité pour Daesh de prendre pied en Afghanistan. Parce qu'en fait, Daesh, en Afghanistan, ce n'est pas comme la Syrie. Daesh n'est pas composé des militants étrangères, arabes, européens, etc., etc. Daesh en Afghanistan, une partie, ce sont des Pashtuns pakistanais.
Ce sont des gens qui ont changé de crèmerie, si voilà. Je peux dire ça comme ça.
Voilà. Oui, une partie des talibans qui étaient mécontents des négociations de paix. Mais si les talibans, si le processus de paix réussit, les talibans n'auront pas du tout de difficultés pour maîtriser Daesh en Afghanistan.
J'aimerais qu'on revienne sur ces relations entre les talibans et l'organisation État islamique en Afghanistan, qu'ils appellent Khorasan d'ailleurs. C'est oui. La façon que l'État islamique a de nommer le pays. Ce sont des relations où on passe de l'un à l'autre, où on se combat tout en se jaugeant, Jean-Luc Racine. C'est compliqué.
C'est assez compliqué parce qu'il y a eu effectivement, et ça vient d'être dit, des talibans plus radicaux que la ligne définie et qui ont pu rejoindre des groupes de Daesh, mais pour l'essentiel, du commandement et de la centrale qui dirige, dès le début d'ailleurs, hein, dès le début, les talibans ont dénoncé la prétention universaliste du califat en disant, en gros, mêlez-vous de ce qui vous regarde, nous, on est l'émirat islamique d'Afghanistan, on est chez nous, point. Et il y a eu un certain nombre de combats entre les deux groupes, dont certains, d'ailleurs, ont bénéficié, côté taliban, semble-t-il, d'appui iranien, voire russe, en matière d'armes légères.
Est-ce qu'on pourrait dire que les talibans, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelait à une certaine époque les talibans modérés et que les non-modérés sont partis du côté de Daesh.
Non, ça n'a pas de sens. Ce sont des termes.
Ce qu'on disait ça à une époque, c'était un peu surprenant pour les Béotiens.
On disait ici en France, en Europe, ça n'a pas vraiment de vérité en Afghanistan. Les talibans, ce sont des talibans. Ils sont fondés sur une certaine conception du monde, de l'islam, de la charia, imprégnée par des coutumes tribales, pachtounes à l'intérieur de l'Afghanistan, et basta. Ils sont très fermes là-dessus. Donc, mais évidemment, aujourd'hui, ils montrent un certain visage de changement. Par exemple, aujourd'hui, il y a 3 jours, le chef des négociateurs des talibans, M. Stanakzai, a annoncé que dès qu'on arrive au pouvoir, par la paix, on va dissoudre l'armée afghane. Et aujourd'hui, à Moscou, ses propres camarades ont dit non, pas du tout, il n'en est pas question de dissoudre l'armée, un État a besoin de l'armée. Donc, il essaye de montrer un certain visage modéré, si vous voulez, mais en réalité, les talibans, ils n'ont pas changé du tout de conception de société.
C'est le point très important que vous évoquiez, Jean-Luc Racine, c'est que les talibans n'ont pas du tout l'intention de discuter avec le gouvernement élu actuellement au pouvoir en Afghanistan. Ça complique la situation. Est-ce que les États-Unis peuvent vraiment, on va prononcer le mot, abandonner un gouvernement et un État élu et qu'ils ont soutenu pendant des années et des années?
Alors là, on change évidemment de problématique.
Parce que c'est quand même une partie essentielle de la question.
Oui, mais bien entendu. Je dis on change de problématique parce que là, on retombe sur une question qui dépasse le cadre de l'Afghanistan. Quand Donald Trump prend une décision comminatoire et qui change éventuellement de position, est-ce que l'administration, est-ce que le Congrès va suivre? Pour le moment, on voit bien que même au sein des républicains au Congrès américain, il y a beaucoup de figures de poing disant il faut surtout pas, on peut envisager de retirer peut-être 2000 hommes, etc., mais il faut surtout pas un retrait complet parce que qu'est-ce qui s'est passé? Les talibans demandent des garanties sur le retrait américain, mais quelles garanties eux donnent-ils de ce que serait un régime afghan de demain, soit partagé, soit tout à fait dans leurs mains? Alors qu'ils demandent aujourd'hui clairement de changer la constitution, et donc on les sent dans une position où ils considèrent bien que même s'il n'y aura pas de victoire militaire d'un côté ou de l'autre, le temps semble jouer pour eux. Et là, je pense qu'il y a une responsabilité de la communauté internationale vis-à-vis du gouvernement de Kaboul.
Ils parlent d'élections, les talibans, Karim Pakzad?
Non, en fait, les talibans, leur conception, c'est comme tout à fait opposé.
C'est anti-électoral, complètement.
Voilà, absolument. Mais votre question au début, est-ce que Donald Trump a abandonné le gouvernement de Kaboul, M. Ashraf Ghani? Oui. Et d'ailleurs, vous savez que depuis que M. Trump est à la Maison Blanche, bientôt 2 ans et demi, il n'a jamais invité le président afghan aux États-Unis. Il n'a jamais lui-même mis pied en Afghanistan, alors que Barack Obama, quasiment tous les ans, il est allé en Afghanistan.
Et Hamid Karzai venait régulièrement à Washington.
Absolument. Et donc, pourquoi il a abandonné, en fait, le gouvernement afghan? Premièrement, Donald Trump, parce qu'il s'agit de Donald Trump, on ne parle pas de l'ensemble de la complexité de la politique américaine. Donald Trump fonctionne comme un commerçant. Il compte ses sous.
Il fait des deals, il fait
absolument
des affaires.
Il vient encore devant le Congrès, a dit, on dépense 151 milliards de dollars en Afghanistan. Vous vous rendez compte de l'argent qu'on dépense pour rien. Donc, d'abord, il compte comme ça. Deuxièmement, il sait qu'ils ne peuvent pas gagner cette guerre militairement. Troisième élément, il sait qu'il ne peut pas arriver à un accord de paix qu'avec les talibans. C'est les talibans qui aujourd'hui a l'initiative sur le terrain. Le dynamique, malheureusement, est de côté des talibans. C'est la raison pour laquelle, le négociateur en chef des Américains, M. Khalid Zod, a inventé une expression pour contourner le gouvernement afghan. Il parle de discussion inter-afghan. Ce que s'est passé hier et aujourd'hui à Moscou.
Oui, j'aimerais revenir sur la situation militaire. Hein. Il y a encore des attaques graves et très fréquentes, notamment contre les forces de sécurité afghanes. Le nombre de bombes larguées par les Américains est reparti à la hausse, en forte hausse en 2018. Jean-Luc Racine, comment est-ce qu'on peut négocier tout en maintenant un tel niveau de violence ?
Mais ça marche des deux côtés. C'est-à-dire que, d'un côté, les talibans multiplient les attaques, qu'on peut qualifier de terroristes, même si les cibles sont éventuellement militaires, mais quand c'est dans des cantonnements, c'est pas une ligne de front.
Ce sont des méthodes terroristes, en tout cas, des voitures piégées.
Des voitures piégées, des choses comme ça. Voilà. Et vous l'avez dit, les Américains, de leur côté... ont accentué la pression, entre autres par des bombardements aériens qui, évidemment, font des dommages collatéraux. Ce qui sert la propagande talibane, qui chaque jour va mettre sur ses sites et sur ses podcasts tel ou tel événement montrant soit leur victoire sur le terrain, soit des victimes civiles de bombardements américains. Mais il y a un parallélisme là. On discute, mais en même temps, on montre la force.
On montre ses muscles.
On montre ses muscles, même si l'on sait qu'il n'y aura pas de solution purement militaire à ce conflit. Qui dure d'une certaine façon depuis des décennies.
Karim Pakzal.
Moi, je crois qu'on on le sait que le président américain a voulu montrer ses muscles à partir de septembre l'année dernière, où il a défini une nouvelle stratégie en Afghanistan en augmentant les forces militaires américaines et en autorisant les forces américaines qui sont stationnées en Afghanistan pour la formation des soldats afghans et non pour l'effet de guerre de participer à la guerre. Mais cela a été obtenu par des généraux qui entouraient la maison de notre homme à la Maison Blanche. Il n'y a plus de généraux. Il y a peu de générales aux Maisons Blanches. Même le dernier qui a été ministre de la Défense, Mattis, a démissionné.
A démissionné précisément à cause de
voilà,
son retrait américain.
À cause de ça, a démissionné. Or, mais sur le terrain, finalement, Donald Trump, il voit quoi? Vous savez, en 4 ans, selon le dire du président afghan, 45 000 soldats afghans ont été tués. Alors à cela, il faut ajouter plusieurs dizaines de milliers de blessés de côté uniquement des soldats afghans. Aujourd'hui, plus de moitié du territoire afghan est contrôlé par les talibans. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire les Américains dans une pareille guerre?
Justement, c'est ma question. Qui contrôle quoi dans le pays? Est-ce qu'il existe une force qui peut mettre tout le monde d'accord? Parce que il y a le gouvernement, il y a les Américains, il y a les talibans, mais il y a aussi des seigneurs de la guerre. Le pays est très fracturé. Est-ce que les talibans peuvent être la cheville ouvrière d'une unité afghane, Jean-Luc Racine?
Non, c'est peu vraisemblable parce que l'histoire laisse des traces et il y a encore des politiques, des chefs de guerre qui leur sont farouchement opposés. Il y a la question des femmes qui se pose, même si les talibans ont changé leur discours. Mais il existe aujourd'hui une société civile, peut-être pas au fond des villages, mais dans les villes, ça existe, et qui entend être associée d'une façon ou d'une autre au débat en cours et au débat à venir, de façon... est-ce que des garanties soient fournies si un accord était conclu, des garanties soient fournies sur le maintien des progrès qui ont été faits depuis 2001.
Ils disent qu'ils ne sont plus opposés à l'éducation des femmes comme lorsqu'ils étaient au pouvoir entre 1996 et 2001. Karim Pakzad, ça vous paraît crédible?
Ils
sont vraiment changés.
Ils rajoutent que dans le cadre de l'islam, dans le cadre de la charia. Voilà. Et donc, ils fixent les limites. Mais par rapport à la question précédente, l'Afghanistan est extrêmement compliqué, ça tout le monde le sait. Il y a 3 semaines, Donald Trump critiquait ses généraux pour le fait que pourquoi ils n'ont pas laissé les talibans combattre Daesh. Vous voyez, à ce point-là, l'Afghanistan est compliqué. En fait, il existe une force énorme pour contrecarrer les talibans. Il y a 300 000 soldats afghans. 300 000. Il y a une société civile, comme M. Racine a évoqué. Il y a énormément. Ce qui manque, c'est l'unité et un ciment qui les unit contre les talibans.
Merci Karim Pakzad. Merci à vous également, Jean-Luc Racine. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour. Déborah Lepage à la coordination, Emmanuel Sevin à la documentation et à la réalisation. Aujourd'hui, Hélène Avril, vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur RFI.fr et sur nos applications mobiles comme RFI Pure Radio, rubrique magazine. Prochain débat, demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.